Alors, on va continuer un petit peu donc la deuxième épître aux Corinthiens. On est maintenant au chapitre 5 et on va lire trois versets supplémentaires. Donc, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 13. Paul dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » Nous ne nous recommandons pas de nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Alors, je ne cesse pas de le redire, je vais le redire encore, mais pour bien comprendre l'épître aux Corinthiens, cette deuxième épître, il faut avoir toujours ce contexte et se dire que Paul est en train de se défendre contre des personnes qui lui en veulent. Et ils attaquent son ministère, ils attaquent sa qualité d'apôtre, de pasteur, d'enseignant. Et c'est toujours dans ce contexte qu'il faut interpréter cette épître. Mais en prenant cette situation de vie de l'apôtre Paul, on peut aussi tirer des enseignements pour nous et de la nourriture pour nous. Et on va voir quatre choses ce matin. On va voir que Dieu est digne de crainte, premièrement, que Dieu nous connaît, que Dieu s'occupe de notre cœur et que Dieu est suffisant. Dieu est digne de crainte, Dieu nous connaît, Dieu s'occupe de notre cœur et Dieu est suffisant. Et il y a un lien dans ces quatre choses, en ce que, justement, Paul se défend. Il est en train de se défendre, alors il va placer ses arguments comme cela. D'abord, verset 11, il dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » C'est un verset souvent que l'on prend par rapport à l'évangile de Christ. On dit, vu comment est Dieu, vu comment Dieu est un grand Dieu qui est digne de craindre, alors, on cherche à gagner les âmes. On souhaite vraiment que les âmes viennent à l'Évangile. Et c'est vrai, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, dit la parole de Dieu. Donc, c'est clair qu'on peut le prendre de cette manière. Et c'est vrai que dans la suite du passage, Paul va montrer l'importance d'être des ambassadeurs pour Christ et donc d'aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, on peut dire, connaissant la crainte du Seigneur, on cherche à convaincre les hommes. Mais on n'est pas encore à la suite du passage qui va nous parler des ambassadeurs. On est toujours dans ce contexte où Paul est encore en train de se défendre par rapport à ses accusateurs. Et c'est dans ce contexte-là qu'il cherchait justement à convaincre, à persuader autour de lui à quoi ? Eh bien, c'est tout ce qu'il vient de dire avant, et dans la première épître, il cherchait à dire aux Corinthiens, mais arrêtez le péché, obéissez au Seigneur, faites le bien, etc. Il leur donne plein de recommandations par rapport à ces choses, et c'est dans cette optique-là qu'il cherchait à convaincre les hommes, parce qu'il connaissait la crainte du Seigneur. Donc, il voulait les convaincre de bien agir. Donc, il utilisait la parole, et puis, comme le dit les Écritures dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, il cherchait à enseigner, il cherchait à convaincre, il cherchait à instruire, à corriger dans la justice. Et en faisant cela, c'est ce qu'il a fait dans la première épître aux Corinthiens, il y en a qui commençaient à grincer des dents. Et c'est pour ça qu'il s'était retrouvé avec des personnes qui commençaient à lui taper dessus, parce qu'ils ne supportaient pas justement que Paul puisse les reprendre et dire des choses aux uns et aux autres. Alors ils grinçaient des dents. La vérité les dérangeait. Pourquoi ? Parce qu'il ne laissait pas tout faire. Dans 1 Corinthiens, il dit non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi il avait repris les Corinthiens ? Est-ce que c'était parce que c'était un petit chef et qu'il voulait dominer les frères de Corinthe ? Et c'est jamais facile d'être repris. Je ne connais pas quelqu'un qui naturellement dira « Oh oui, moi j'aime bien qu'on me reprenne. J'aime bien qu'on me dise que ça ne va pas ici ou là. » Bien sûr, dans le Seigneur, les choses sont différentes. Quand on est en Christ, alors on peut accepter que quelqu'un nous dise quelque chose et nous reprenne et nous dise « Mais ça ne va pas ici. » Mais naturellement, ça grince quand quelqu'un vient mettre le doigt sur notre péché. On n'aime pas être repris. Et c'est ce qui se passait pour ces accusateurs de Paul. Paul mettait le doigt, et il réagissait, ça coinçait. Pourquoi Paul avait envoyé sa première lettre aux Corinthiens ? En fait, il dit que c'était parce qu'il craignait le Seigneur. Et parce qu'il craignait le Seigneur, eh bien, il ne pouvait pas ne rien dire. Alors, eh bien, il a écrit cette lettre qui était sévère, hein, pour dire, mais vous ne pouvez pas agir de cette manière. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Il craignait le Seigneur. Alors, il leur disait, attention, ce n'est pas la bonne voie. Changez de voie, changez de direction. Et j'aimerais vous poser deux questions ce matin. La première, c'est, est-ce que vous craignez, est-ce que nous craignons, est-ce que je crains le Seigneur ? Et la deuxième, c'est, est-ce que vous acceptez qu'on vous reprenne ? Est-ce que j'accepte qu'on me reprenne ? Avez-vous la crainte d'abord du Seigneur ? Paul dit, connaissant donc la crainte du Seigneur. Et le verbe qu'il emploie pour connaître la crainte du Seigneur, c'est le verbe percevoir, appréhender, expérimenter notamment avec les sens. C'est très concret ici. C'est pas avoir une connaissance abstraite de la crainte de Dieu. Oui, Dieu est un Dieu à craindre. Hein. Mais c'est avoir une expérience concrète par les expériences de la vie finalement. On a vécu des choses et oui, on craint le Seigneur dans notre cœur. Il y a cette crainte qui est au-dedans de nous. Comment on peut définir la crainte de Dieu ? On peut le définir comme un vif sentiment de la présence de Dieu. Avoir un vif sentiment de la présence de Dieu. On sait que Dieu est là. On sait qu'il est là, à côté de nous. Et voilà, dans cette proximité avec lui, bien on ne veut pas le décevoir. Hein. On ne veut pas lui désobéir. Hein. On veut faire sa volonté. Et la crainte de Dieu, elle grandit dans notre cœur quand Dieu justement s'approche de nous. Quand il s'approche tout près de nous, eh bien là, il y a une crainte qui se développe dans notre cœur. Par exemple, quand il nous parle, il nous dit de ne pas faire quelque chose. Et on le fait quand même. Et ça se passe mal. Et on en paye les conséquences. Et après, on se dit, le Seigneur avait raison, j'aurais pas dû faire ça. Eh bien, on commence à avoir de la crainte dans le cœur parce qu'on se dit, mais Dieu, c'est bien plus que moi. Quand par exemple, Dieu nous dit, il s'approche de nous et il nous dit, attention. Et on sait exactement qu'il est en train de nous parler parce que nous sommes dans une situation de vie où là, on prend une mauvaise direction et qu'il nous parle avec un verset très clair. Il nous dit, attention, là, ça développe de la crainte. Parce qu'on connaît Dieu et on sait c'est ce qui peut arriver. Il est notre Père et nous sommes ses fils et ses filles. Et un bon Père, il ne va pas laisser passer comme ça les choses tout le temps et sans rien dire. Et donc, il y a une crainte qui se développe dans notre cœur, hein, un respect. On a un vif sentiment de la présence de Dieu. On sait qu'il nous voit, qu'il nous suit, qu'il nous aime. Alors, eh bien, voilà, on veut rester avec lui dans l'obéissance. Il ne faut pas oublier de craindre le Seigneur. Vous savez, on peut petit à petit oublier de craindre le Seigneur. Il y a une distance qui se crée entre lui et nous. Dans les Proverbes, je vous lis, Proverbes 28, 14, il dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Il tombe dans le malheur. Donc il y a une nécessité de... Voilà, je veux rester dans cette attitude de cœur où je sais que Dieu est là et je ne veux pas désobéir, je ne veux pas pécher. Et parce que Paul craignait le Seigneur, alors, eh bien, lui ne voulait pas désobéir dans sa vocation de pasteur et d'apôtre. Et c'est pour ça qu'il avait repris les Corinthiens. C'est pour ça qu'il voilà, il avait dit toutes ces choses avec sévérité. Alors, eh bien, ça ne plaisait pas. Certains, ça ne leur plaisait pas du tout. Maintenant, est-ce que vous acceptez qu'on vous dise non ? Qu'on vous reprenne finalement ? Est-ce que vous l'acceptez ? Souvent, on est très indulgent avec soi, mais on se dit « Oh oui, bon, moi, bien sûr ». On peut me reprendre, il n'y a pas de problème, j'ai quand même de la maturité, hein. Je vais savoir bien le recevoir et puis corriger éventuellement si c'est bien. Mais en fait, on ne peut pas savoir tant qu'on ne nous a pas repris. C'est quand on nous reprend vraiment, alors là, on va voir notre réaction. Comment réagit-on lorsqu'on nous reprend ? Il y a certaines personnes, elles n'acceptent pas qu'on leur dise qu'elles n'agissent pas bien. Si on le fait, elle s'énerve. Et elle raccroche. C'est, voilà. On ne veut pas entendre, en fait. Pourquoi ? Parce que l'autre ne peut pas avoir raison. C'est forcément nous qui avons raison. Et le danger, vous savez, quand on n'accepte pas qu'on nous reprenne, c'est qu'à la fin, eh bien, plus personne ne nous reprenne. Et là, on devient sa propre référence. On se regarde soi-même, et quand on se regarde soi-même, tout va toujours bien. Hein ? Nous, on pense que tout va bien. Mais on a besoin des autres. On a besoin que les autres nous disent « Attention, je vois que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, ma sœur, fais attention. » Et ça, c'est quelque chose qui est salutaire. C'est pour ça que Dieu nous donne des frères et sœurs et qu'il nous donne une église. C'est pour qu'on puisse aussi veiller les uns sur les autres et prendre soin les uns des autres. Mais il faut accepter d'être repris. Sinon, eh bien, il n'y a plus de progrès. On s'arrête. Les proverbes disent « Celui qui hait la réprimande est stupide. » Il est stupide. Le moqueur n'écoute pas la réprimande. Celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui hait la réprimande mourra. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Et c'est un choix, une direction que l'on prend. C'était le choix de ces hommes, hein, qui n'acceptaient pas les réprimandes de Paul, n'acceptez pas qu'on les reprenne. Mais les proverbes disent aussi, il y a l'autre côté, l'autre versant, ils disent « Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui a égard à la réprimande est honoré. Celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. » C'est pas facile d'être repris. C'est pas facile parce que ça atteint notre orgueil, notre amour propre, notre fierté, hein. Mais suivre le chemin de Christ, eh bien, c'est aussi accepter de se soumettre à cette discipline. On est ensemble, on marche ensemble. Alors, eh bien, on va accepter aussi qu'on nous dise non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas bien. C'est une mauvaise direction. C'est prendre le chemin du Seigneur, le chemin de l'humilité, de la douceur. Regardez la deuxième partie de 2 Corinthiens 5, verset 11. Paul dit « Dieu nous connaît ». Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Et Paul avait au moins une chose pour lui-même, il se savait connu du Seigneur. Et le terme connaître, ici, c'est littéralement manifester. Paul dit, nous avons été manifestés à Dieu. En fait, ça veut dire, nous avons été découverts, nous avons été révélés, nous avons été exposés à la vue devant Dieu. Voilà, il nous connaît, il me connaît, il dit. Alors bien sûr, Dieu connaît tout, il sait tout. Mais dire Dieu nous connaît, ça fait partie de la défense de l'apôtre. Il est toujours en train de se défendre. Et c'est une bénédiction de pouvoir dire, ça va, Dieu me connaît, Dieu me connaît. Il sait qui je suis, il sait ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Il est aussi dans mes pensées, dans toute ma vie, du début jusqu'à la fin. Il sait quand je me lève, il sait quand je me couche, hein, c'est ce que dit le psalmiste. Il me connaît parfaitement. Il sait quand il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Il sait si je suis malhonnête. Il sait si je suis intègre, droit de cœur. Il sait quand je suis transparent ou quand je louvoie, je suis fourbe. Il sait quand j'essaie de cacher la vérité. Ou il sait quand j'expose et je n'ai rien à cacher. Dieu me connaît. Et Paul dit, ben j'espère que vous, dans vos consciences, vous me connaissez aussi, c'est-à-dire comme Dieu me connaît. Et ici, Paul est en train de faire appel à leur propre intégrité, à tous ces accusateurs. Pour lui, il dit, Dieu me connaît, mais vous, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez réellement? Est-ce que vous avez été capable de voir ce que j'ai exposé aux Corinthiens, dans mon ministère, dans tout ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez été capable? Et on peut dire que l'apôtre n'était rien d'autre que ce qu'il disait qu'il était. On pouvait parler cœur à cœur avec lui. C'était possible. Il n'avait jamais trompé les Corinthiens. Mais est-ce que eux étaient prêts à le reconnaître ? Maintenant, s'ils n'étaient pas prêts à écouter leur conscience, alors Paul dit ceci, l'apôtre dit, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Et parfois, on peut subir une injustice. Voilà, quelque chose de méchant vis-à-vis de nous, et on ne peut pas le redresser. C'est pas possible. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que si on est innocent, on peut dire, mais j'ai ça pour moi, Dieu me connaît. Je sais où j'en suis par rapport à lui. Alors bien sûr, c'est toujours important d'être dans cette attitude où on peut dire, Dieu me connaît. Hein? Et on peut dire, Dieu me connaît quand on est irréprochable. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui n'a pas été, on cherche à réparer. Autant que ça nous est possible. Et si on a mal agi, eh bien on est prêt à demander pardon. Et puis après, on peut dire, Dieu me connaît. Hein? Voilà. Je suis transparent devant lui. Est-ce que chacun peut dire, Dieu me connaît, tout va bien. Verset 12, il dit, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Alors dans le chapitre précédent, il s'était déjà défendu, hein, il avait commencé sa défense, il avait dit « Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Et ici il dit « Voilà, je ne vais pas de nouveau me recommander moi-même, hein, mais en se défendant une nouvelle fois, il expose la réalité de son intégrité, de son innocence, et il veut donner des arguments à ceux qui étaient de son côté. » Parce que dans l'église de Corinthe, il y en a qui étaient pour Paul, hein, et ils n'avaient aucun problème, et ils voyaient juste, et puis d'autres qui étaient contre lui. Et c'est un peu comme s'il dit, bien, à ses frères qui étaient avec lui, il leur dit, n'ayez pas de crainte au sujet des détracteurs qui sont à côté de vous. Moi, je n'ai rien à me reprocher, tout va bien. Et ces détracteurs, il est décrit comme des personnes qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Littéralement, c'est un mot. Si on traduit mot à mot la phrase, c'est de façade se mettant en valeur et non dans le cœur. De façade se mettant en valeur et non dans le cœur. C'est un peu, imaginez une façade de restaurant magnifique, elle a été repeinte, refaite, voilà, avec les néons et tout, et vous rentrez, et voilà, c'est vraiment pas ça. Je me souviens dans un voyage à l'étranger avec mon père. On avait vu restaurant français. Je me suis dit, oh ben tiens, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas mangé un steak frites. On va aller manger un steak frites. Et alors c'était une maison, bon, de l'extérieur ça allait, hein, mais quand on est rentré dedans, c'était terrible, très sombre, peut-être pour cacher des choses. Hein. C'était pas très clean, hein, c'était vraiment. Et des fois, il y a une apparence de l'extérieur, tout va bien. Mais à l'intérieur, hein, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme une femme, elle est magnifique. Et quand vous parlez un peu avec elle, vous voyez que de son cœur ne sortent que des choses qui ne sont pas belles, quoi. Hein? Voilà, de l'amertume ou de la rancœur. Ou, là, vous vous dites mince. Hein? Ou bien un fruit, vous le coupez, il est beau, et puis à l'intérieur, il est tout pourri. Mais le contraire est aussi vrai. Des fois, vous avez un restaurant, ça ne paye pas de mine, mais vous rentrez dedans, cuisinier excellent. Les repas sont nickel et vous vous régalez. Et c'est vrai aussi pour des personnes. Il y a des personnes, elles ne sont pas attrayantes au premier regard. Mais quand vous parlez avec elles, ils disent, mince, il y a un cœur là, et un cœur qui est précieux, un cœur qui aime le Seigneur. Et au chapitre 12 de cette épître, un petit peu plus long, on ne va pas le prendre, mais Paul, justement, va parler de son infirmité. Vous vous souvenez, cette écharde dans la chair qui le faisait souffrir. Et qu'est-ce que c'était que cette infirmité ? Quand on lit l'épître aux Galates, il semble que c'était peut-être quelque chose aux yeux, quelque chose de purulent, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui ne lui donnait pas une belle apparence. Et peut-être que ses détracteurs, en plus, ils n'aimaient pas l'apparence de Paul. Et ils rejetaient l'apôtre Paul. Hein, et ils n'avaient pas un souci du cœur de Paul, de ce qui était dans son cœur. Alors il en parle comme de ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur, hein. De façade se mettant en valeur, mais dans le cœur, eh bien ils oubliaient. Et c'est vrai que bientôt, il ne va rien rester de notre homme extérieur. Peut-être qu'on est encore avec un corps qui va bien, hein. mais il va rien rester. Tout ça, ça va passer. Mais par contre, il va rester notre cœur, notre âme. Est-ce que nous avons une belle âme? C'est ça qui compte. Est-ce que j'ai une belle âme? Est-ce que nous avons une belle âme? Parce que c'est ce que Dieu, c'est ça que Dieu veut travailler dans notre vie. Il veut faire de nous de belles âmes. Que chacun nous ayons une belle âme. Et c'est quoi une belle âme? Quelle est la plus belle âme? Celle de Jésus. Hein? C'est la belle âme. Il est l'âme. L'âme qui nous éblouit. Hein? Et on le dit, hein, on le chante, ressembler Jésus, que ressembler Jésus. Mais est-ce qu'on veut vraiment ressembler à Jésus? Est-ce qu'on veut avoir une âme comme son âme? Regardez Romains 8, 28, 29. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et si nous sommes son enfant ce matin, si vous êtes son enfant, alors eh bien, Dieu vous prédestine à être semblable à l'image de Jésus-Christ, de son Fils bien-aimé. Et quand il parle de l'image, il ne parle pas d'une image physique, il parle plutôt d'une ressemblance morale en fait. Hein. Dieu nous prédestine à être semblable à Christ dans notre attitude, dans notre comportement, dans ses vertus en fait, dans ses qualités. En fait, Dieu veut laisser Jésus transparaître au travers de nous. Et c'est quelque chose qui se réalise au fur et à mesure que Jésus grandit dans notre vie. On a écrit ce verset sur le mur, hein. Il faut qu'il croisse et que moi, eh bien, je diminue. C'est ça qui est important, que Jésus croisse et moi, eh bien, je m'efface, je disparaisse, je lui laisse la place, parce que c'est lui qui est digne. Et c'est en cela que Jésus nous transforme et il fait de nous de belles âmes. Une belle âme, c'est là où il y a l'apparition de Jésus. C'est là où il y a le développement de la vie de Jésus en nous. C'est une prise d'autorité sur notre cœur. Pas une prise d'autorité forcée, mais c'est nous, volontairement, on lui laisse l'autorité. Alors, eh bien, il prend l'autorité. Et c'est lui qui magnifie, qui transforme, hein, qui fait apparaître cet homme nouveau qui est lié au Saint-Esprit. On va lui céder de plus en plus notre cœur. Alors, ben, il va grandir et prendre de la place dans notre âme. Il dit, nous sommes prédestinés. Ça, c'est quelque chose de certain qui va s'accomplir. Hein. Nous ne pouvons qu'être semblables au Fils de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez finalement qu'être semblable au Fils de Dieu. Vous y êtes prédestiné. Dieu va la faire. Il va le faire, quoi qu'il arrive. Et il faut bien comprendre ce verset. Ce n'est pas une promesse où on regarde simplement dans le futur, c'est-à-dire à notre mort, et on se dit, oui, c'est vrai, un jour, je ressemblerai à Jésus. Mais pour maintenant, eh bien, voilà, je suis dans mon corps, alors je vais vivre comme je suis, et je vais m'accepter comme je suis, et puis il faut que les autres m'acceptent aussi comme cela. Mais Dieu veut commencer à imprimer son image en nous maintenant. Il veut que le caractère, que la vie de Jésus apparaisse en nous maintenant. Ça, c'est sa volonté, c'est son but. Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui peut empêcher ça? Ben, c'est nous-mêmes. Nous sommes le principal obstacle à cela. C'est notre résistance quand il nous parle, quand il nous dit quelque chose de refuser, de rejeter, d'abandonner, de lutter, de nous consacrer, de nous offrir. C'est aussi notre incrédulité. On ne le croit pas. On ne le croit pas. On se dit, mais Dieu ne peut pas me changer. Dieu ne me changera pas. Mais notre incrédulité nous paralyse. Il faut croire. C'est l'essence même de la vie chrétienne. Et Dieu, son but, c'est de nous changer. Donc, l'incrédulité, notre incrédulité est un obstacle. Nos doutes, il faut croire. Et il faut regarder vers Jésus. Il nous prédestine à être ses filles, semblables à son Fils bien-aimé. C'est sûr. On y va. Pourquoi on ne pourrait pas commencer à y aller maintenant? Il faut y aller maintenant. Ça peut être aussi notre indépendance, notre refus de lâcher prise. Et on n'est plus des étrangers, on est maintenant des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. Et Jésus, il est dit, il est le premier-né de plusieurs frères. Donc Dieu ne veut qu'une chose, c'est que tous ses enfants ressemblent à son Fils unique. Ça, c'est vraiment son désir. Il veut réaliser l'image de Jésus en nous. Quand Jésus était sur terre, le Fils était l'image du Père. Le Fils était l'image du Père. C'était la première partie du plan. Le Père s'est révélé au travers de son Fils. Première partie. Et puis ensuite, deuxième partie, maintenant que Jésus s'est racheté un peuple, la seconde partie, c'est que le Père maintenant se révèle en imprimant l'image du Fils en nous. Que nous puissions refléter Jésus. Alors c'est vrai que peut-être ce matin, vous êtes parti de chez vous et ça n'allait pas, en colère ou un peu amer, ou voilà, vous êtes disputé. Des fois on part au culte comme ça et ça ne part pas très bien. Peut-être que la semaine était horrible. Peut-être que vous avez vécu une semaine horrible. Peut-être aussi que vous luttez avec une dépendance et vous n'arrivez pas à être libéré. Peut-être que vous êtes confronté aussi à votre mauvais caractère qui revient et qui revient sans cesse. Mais Dieu nous prédestine à être comme Jésus. Ça, c'est sa volonté. Il veut imprimer le caractère, les pensées de Jésus en nous, son comportement. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne peut pas échouer. Ça me rassure. Dieu ne peut pas échouer. Il ne peut pas. C'est impossible. C'est Dieu. Et donc, il a un moyen, il a un plan pour nous transformer par sa puissance. Je lisais dans un ouvrage une femme qui souffrait des colères de son mari. Et le mari, je pense, avait 65-70 ans. Ça semblait jouer d'avance. Et donc, elle est allée voir un conseiller, ils en ont parlé ensemble. Et Dieu a opéré une délivrance dans le cœur de cet homme. Le conseiller a revu la personne quelques années plus tard, et c'est la femme qui est venue louer son mari pour dire: mon mari a changé. S'il a changé, Dieu peut aussi vous changer. Et il ne faut pas baisser les bras et se dire non, il n'y a rien à faire, je vivrai comme je suis et qu'on m'accepte. Non, Dieu veut changer notre vie, il veut imprimer l'image de Jésus en nous. Et c'est possible. C'est possible parce que Dieu ne peut pas échouer. Mais il ne faut pas que nous opposions de la résistance. Il faut qu'on le veuille et qu'on le croit. Qu'on le croit. Il va réussir à faire en nous, dans chacun d'entre nous, de belles âmes. Des âmes comme Jésus, notre frère. Bien sûr, on ne sera pas parfait. Mais on voit, on connaît déjà des frères, des sœurs, on se dit, mais je vois Jésus. Dieu veut le faire aussi en nous. Regardez verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Et Paul se souciait de l'âme de ses frères et sœurs de Corinthe. Et c'était pour cela qu'il leur avait écrit. Mais comment les Corinthiens prenaient sa lettre? Comment ils prenaient ses réprimandes, ses exhortations? Et il dit, si je suis de bon sens, c'est pour vous. Si je suis de bon sens, c'est-à-dire si vous le prenez bien, si vous avez conscience que c'est pour vos progrès, alors bien, voilà, c'est tout bénéfice pour vous, c'est bien. C'est pour vous. Vous êtes enrichis, vous êtes bénis. Amen. On avance. Mais si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. C'est-à-dire, si vous le prenez mal, si vous me rejetez, si vous ne voulez pas écouter mes réprimandes et vous ne voulez pas que je vous reprenne, alors qu'importe. Moi, je l'ai fait pour Dieu. Donc c'est pour Dieu. Et Dieu me suffit. Et j'aimerais terminer avec cela. Est-ce que Dieu nous suffit? Est-ce que Dieu nous suffit? Et il arrive dans certaines situations que l'on se retrouve seul. Par exemple, quand notre famille nous rejette,
parce que bien, voilà, on a peut-être pris position pour le Seigneur, quand notre famille, certaines personnes disent, mais il a perdu la tête. Eh bien, comment ça se passe pour nous? Il dit, si je suis hors de sens pour quelqu'un, eh bien c'est pour Dieu. Je vis pour Dieu, et Dieu me suffit. Tant pis pour vous, il me suffira.
Et c'est vrai que Paul n'était pas totalement seul, mais il s'adresse à l'ensemble des Corinthiens, et parmi eux, certains eh bien, lui étaient fidèles, d'autres ne l'étaient pas. Mais la séparation se faisait avec le regard que chacun avait sur l'apôtre Paul. Comment il le regardait? Et on aimerait bien que tout le monde nous aime. Moi, j'aimerais bien le premier, que tout le monde m'aime. On aime bien être aimé, mais on ne peut pas être aimé par tous. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Et parfois, eh bien, il faut accepter qu'on soit rejeté, qu'on nous méprise, qu'on nous calomnie, qu'on dise des mauvaises choses. Et parfois, on ne peut rien faire. Et il faut l'accepter. Et Dieu nous suffit. Si je suis hors de sens, pour eux, ben, tant pis. Moi, Dieu me suffit. Et je vis pour le Seigneur et c'est ça qui compte. Dieu est suffisant. Paul trouvait son refuge dans le Seigneur. Ça me faisait penser au psaume 119. Tout à l'heure, on lisait David. Hein. Mais David, il était dans la souffrance. Hein. Mais sa fidélité, ben voilà. L'Éternel est mon berger. Je ne m'entraîne rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Qu'importe si j'ai des ennemis. Hein. Voilà, il me conduit. Il était son tout suffisant. Dieu est suffisant. J'ai écrit le titre que je ne vous ai pas lu le message. J'ai dit, dans les attaques, Dieu nous suffit. Voilà. Si on est attaqué, peu importe, Dieu nous suffit. Et j'aimerais, pour terminer, relier ces quatre choses ensemble. Vous regardez, eh bien, la trame. Pourquoi Paul enchaîne ces choses? Il se défend. Vous m'accusez d'avoir une parole sévère, mais j'agis parce que Dieu est digne de crainte. Je le crains, et c'est pour ça que je parle. Que vous, vous puissiez aussi le craindre. Maintenant, j'ai une chose pour moi-même, c'est que Dieu me connaît. Je suis transparent, je ne lui cache rien. Et je ne dis pas autre chose que ce que je suis. Maintenant, Dieu merci, il ne s'attache pas à l'apparence simplement, mais il s'attache au cœur. Et peut-être ça vous a renvoyé vers ce verset, hein, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc Dieu va continuer à s'occuper de moi. Voilà, mon cœur est à lui. Il me transformera pour sa gloire. Et puis si malgré tout cela, vous pensez que je suis fou, que je suis hors de sens, ben, ça n'a pas d'importance. Parce que Dieu me suffit. Vous pouvez me donner des coups et des attaques. Dieu va me suffire jusqu'à la fin. Alors, eh bien, qu'on puisse ce matin avoir la même attitude de cœur, la même confiance et le même attachement au Seigneur, hein, dans nos épreuves, nos difficultés de la vie, qu'il soit notre tout suffisant.